Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus. Écoutez un peu la parole de la science. Et disons que le 9 septembre, quand le CNRS a annoncé la médaille d'or, ça a été une surprise pour beaucoup de gens, parce que la médaille d'or a été attribuée à la chimie. À la chimie, compte tenu de ce qu'on entend, est-ce que c'est bien raisonnable? La chimie, ça sent mauvais, ça n'apporte que des mots. Alors, c'est pas forcément vrai. Et je crois qu'il faut, au-delà de bien des aperçus, au-delà de certains matraquages médiatiques, n'ayons pas peur des mots, j'espère vous montrer, tout au moins dans le domaine qui est le mien, que la chimie est incontournable pour l'avenir de la planète, rien que ça. Car effectivement, c'est la seule science qui apporte des solutions aux problèmes de la société actuelle. Et nous pourrons en discuter à la fin de mon exposé. Alors la chimie, c'est une science, mais c'est aussi un art. Et j'aime bien cette phrase de Picasso qui dit que l'art est une science transcendée par le rêve. La science peut en même temps être un art. Et effectivement, la chimie, c'est d'abord une création. Et ce processus créatif peut être le fruit d'un hasard, d'une logique implacable, être issu d'un rêve, d'une frustration, voire d'une folie, mais toujours d'une liberté et d'un questionnement. Donc, le problème, c'est de savoir comment vient l'idée, comment s'établit la stratégie, et surtout, est-ce qu'elle peut servir. Alors, le domaine sur lequel je travaille, c'est celui de ce qu'on appelle les solides poreux, qui sont, comme vous le verrez, des matériaux stratégiques depuis déjà quelques années. Alors, ces solides ont une curieuse histoire, puisqu'elle a commencé au XVIIIe siècle avec un scientifique suédois qui s'appelait Axel Fredrik Cronstedt, et qui était un minéralogiste. Donc, ce minéralogiste, ça recueille des cailloux, ça regarde leur face. Et Cronstedt a eu l'idée de mettre un de ces minéraux, qui s'appelait la stilbite, sur une plaque chauffante, pour voir comment il se comportait quand on le chauffait. Et alors, d'un seul coup, il a vu apparaître à la surface de ces cristaux des bulles, comme si le cristal se mettait à bouillir. Alors ça, c'était un mystère, curiosité, et inexplicable, bien sûr, dans l'état de la science à cette époque-là. Et donc, il a fallu attendre le XXe siècle. Et un grand bonhomme qui s'appelait Linus Pauling, un Américain qui a cette caractéristique d'avoir été deux fois prix Nobel. Un prix Nobel de chimie, bien sûr, mais aussi un prix Nobel de la paix, ce qui est beaucoup plus rare pour un chimiste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce Linus? Eh bien, il a regardé comment s'arrangeaient les atomes à l'échelle atomique. Et en utilisant les rayons X, et il a montré, vous voyez, que ces solides qu'on voit sous forme de cristaux à l'échelle macroscopique, quand on arrivait à l'échelle de l'atome, on voyait que ces atomes étaient arrangés régulièrement, mais apparaissaient également des trous régulièrement espacés dans la structure. Ces trous, on les appelle les pores. Donc maintenant, les solides poreux, vous voyez pourquoi on les appelle poreux. En définitive, c'est un peu un aimantal atomique. Alors ces pores, vous voyez, c'est juste les trous à l'intérieur du squelette. Le squelette, c'est ce qu'on appelle l'assemblage des atomes de manière dense. Et vous voyez qu'à la périphérie de ce pore, il y a des atomes, que j'ai coloriés en violet ici. Ce sont des atomes de surface qui vont avoir une importance extrême, parce que c'est ces atomes qui vont être à l'origine des propriétés de catalyse de ces solides poreux. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est déjà des matériaux stratégiques, et lorsqu'on savait faire des solides poreux avec des petits pores, on les a déjà utilisés, alors d'abord comme tamis moléculaires, c'est-à-dire que c'est comme quand vous filtrez de la farine, vous la mettez dans un chinois, si je crois, Et donc les petites particules passent, les grosses ne passent pas. Eh bien, à l'échelle atomique, ces trous vont servir de tamis. Et donc les grosses molécules ne vont pas passer, alors que les petites molécules vont passer. Ça, c'est la première application la plus simple. Alors, la deuxième application, c'est d'utiliser ces trous comme échangeurs. Et ça, vous l'utilisez chez vous tous les jours. Quand vous voulez purifier l'eau, vous avez des échangeurs dans votre cuisine, c'est-à-dire que l'eau, entre guillemets, impure, arrive et passe dans ce qu'on appelle des résines, qui sont en définitive des solides poreux le plus souvent. Et donc les impuretés contenues dans l'eau restent dans les trous, alors que l'eau pure passe. Donc c'est la deuxième caractéristique, la deuxième utilisation. La troisième était beaucoup plus importante, puisque toute l'industrie du pétrole, si vous avez de l'essence à mettre dans vos voitures, eh bien c'est qu'à partir du pétrole qu'on recueille, comme vous le savez, à des profondeurs assez impressionnantes, eh bien, il faut transformer ces huiles lourdes en essence. Et donc, c'est en utilisant ces solides poreux que, par un processus complexe, on arrive à casser ces grosses molécules d'huile lourde pour arriver à des molécules plus légères que vous pourrez mettre dans votre voiture. Alors, donc, ça veut dire qu'un solide poreux, c'est un squelette, c'est des trous, et en périphérie, c'est des surfaces. Et chacune de ces trois caractéristiques va être utilisée, on va utiliser les propriétés de chacune de ces trois caractéristiques pour faire de ces matériaux, de ces solides, des solides qu'on appelle multifonctionnels, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être utilisés à différentes fins. Alors, par exemple, si on joue sur la surface interne, eh bien, on pourra aborder des propriétés catalytiques, comme je vous l'ai déjà dit, ou d'absorption, c'est-à-dire qu'on pourra fixer des molécules gazeuses, en particulier des gaz à effet de serre, j'y reviendrai, qui pourront s'accumuler dans les pores. Alors ces pores, je vous ai dit que c'était des tamis moléculaires, donc ça veut dire qu'en fonction de la grosseur des molécules de gaz, il y a des gaz qui passeront, d'autres qui ne passeront pas, donc ce qu'on appelle la séparation de gaz. Et enfin, dans le squelette, eh bien, on peut introduire des propriétés magnétiques, des propriétés de conduction, c'est-à-dire que le solide qui est d'habitude isolant, eh bien, il va devenir conducteur, on l'utilisera dans les piles à combustible. Puis en plus, on peut mettre des éléments de terre rares dedans, ce qui fait que d'un seul coup, ils deviennent luminescents. Alors, pourquoi est-ce que je suis intéressé aux solides poreux ? C'est une vraie question. C'était pas par hasard. C'était d'abord un choc esthétique, parce que quand on regarde les solides poreux à l'échelle atomique, bien ça me fait invariablement penser à des tableaux de Vasarely. Je vous le montrerai. Ensuite, disons que si je me suis mis à travailler là-dessus à un âge avancé, c'est que je n'avais pas pu le faire quand j'étais étudiant. Alors que toujours pour cette attraction esthétique, vous voyez, c'est les squelettes de ces solides que je vous montre là, c'est beau. C'est, bien sûr, c'est de l'art géométrique, mais moi, je trouve ça beau. Donc, comme je n'avais pas pu le faire étant jeune, quand je suis devenu un homme très mûr, disons, mais j'ai décidé, en tant qu'homme libre, de m'y mettre, voilà, par plaisir, et pas par obligation. Et puis, surtout, c'est parce que quand les scientifiques, si vous voulez, on lit les publications qui sortent toutes les semaines, et je suis tombé sur un papier de deux Chinois qui était un recueil d'inepties comme je n'en ai jamais vu. Et donc, la colère m'a pris, surtout qu'ils se targuaient des spécialistes de ces solides. Et donc, ma première réaction, ça a été de me mettre en colère. La deuxième, ça a été de dire, je vais montrer qu'ils ont tort. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Alors, ils ne se sont pas relevés. Et moi, par contre, ça a été le démarrage, si vous voulez, de ma quatrième vie. Scientifique, s'entend. Alors, dans tout ce qui va suivre, il y a un code de dessin, si vous voulez, que je vais expliciter d'une bonne fois pour toutes. Vous voyez que d'un côté, vous avez des espèces de polyèdres, ici en violet et jaune. Alors, ces polyèdres représentent les parties minérales de la structure. Cet atome violet qui est ici, c'est un atome métallique qui est entouré de, d'atomes d'oxygène, pour, plutôt que de représenter des... Ah, vous êtes parfaite. La baguette du maître. Merci, madame. Donc, oui, plutôt que de représenter ces 7 atomes, par exemple, eh bien, je représente juste la périphérie, donc un octaèdre, dans ce cas-là, ou un tétraèdre. Et pour ce qui concerne les parties organiques, qui sont à base de carbone, d'hydrogène, etc., vous voyez, j'utilise ce petit modèle de billes et de liaison. Comme ça, ça différencie bien les deux parties qui nous intéressent. Alors, donc, l'idée, c'était de travailler sur les poreux. Et donc, ces trous, et l'idée a été la suivante, c'est, est-ce qu'il est absurde d'imaginer non pas une chimie de la matière, mais une chimie des trous? Alors, est-il absurde d'imaginer que ce soit une chimie originale, qu'elle soit esthétique et ensuite et surtout, bien sûr, utile? Et là aussi, c'est pareil, il y a toujours des phrases, vous savez, qui marquent la vie. Et ces deux phrases d'Einstein, je les adore. Si une idée ne paraît pas d'abord absurde, alors il y a peu de chances qu'elle devienne un jour quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de l'absurdité. C'est souvent de là que créent les bonnes idées. Et en plus, ça c'est la phrase célèbre, l'imagination est plus importante que le savoir. Et ça j'en suis de plus en plus persuadé. Soyons imaginatifs plutôt que trop savants. Alors donc, il y a deux types de solides poreux. Alors il y a ces solides poreux qui ne vont avoir que des polyèdres comme ceux que je vous ai montrés, c'est-à-dire, ce sera des poreux qu'on appellera purement minéraux. J'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, il y a cette deuxième famille qu'on appelle les solides poreux hybrides parce qu'ils comportent à la fois des parties minérales, qui sont toujours sous forme de polyèdres ici, et des parties organiques, toujours représenté sous forme de billes et de liaisons. Alors, j'ai commencé, comme je vous le disais, par travailler là-dessus, mais je me suis vite aperçu que les deuxièmes, les seconds, étaient beaucoup plus riches en termes de possibilités de créer des nouveaux solides, etc. Donc, alors, à partir du moment où j'avais l'idée, il fallait la développer, et les questions que je me suis posées, c'était les suivantes. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Est-ce que généralisable? Alors ça, on le fait, si vous voulez, par ce qu'on appelle la méthode d'essai et d'erreur. On essaie un système, ça marche ou ça marche pas, c'est un peu binaire, quoi. Donc si ça marche, tant mieux, on continue. Si ça marche pas, on laisse de côté. Donc, mais ça permet d'écrire un peu le paysage du domaine. Alors après... Étant chimiste, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on regarde quels sont les paramètres qui influencent la formation de tel ou tel produit plutôt qu'un autre. Là, souvent, les chimistes s'arrêtent là. Une fois qu'ils ont fait le produit, ils sont contents, ils regardent l'assemblage atomique, quelquefois quelques propriétés, et puis on passe à autre chose. Et disons que moi, je n'ai pas voulu m'arrêter là... J'étais quand même très intrigué par ces solides et j'ai voulu savoir comment ils se formaient. C'est-à-dire essayer de décrypter le code pendant qu'ils se forment et non pas constater a posteriori que je les avais formés. Ça, on l'a fait. On l'a fait en développant des méthodes qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'on étudie la réaction en temps réel. Alors, dans notre cas, c'est environ 200 degrés, 30 bars. Et par des méthodes de physique, on arrive à savoir à tout moment comment évolue la réaction. Alors une fois qu'on a compris comment ça se forme, eh bien vous savez, c'est comme un tailleur. D'abord, il fait un patron, il sait qu'il faut faire des pièces, etc. Mais est-ce qu'il est capable de faire de la créativité, de la création? Donc, ce que les anglo-saxons appellent d'un terme que je déteste, le « design ». Donc, la réponse, comme je vous le montrerai, a été oui. Et pour ça, j'ai utilisé un certain nombre de programmes informatiques qu'on a écrits. Et une fois qu'on a donc ces solides, qu'on a su comment ils se formaient, donc après, on joue au Lego. C'est aussi simple que ça. Et jouer au Lego, ça a des limites. Donc on a essayé aussi de voir si c'est celui de Confosé avait des propriétés intéressantes, et surtout pour la société. Et alors, c'est ce qu'on a fait en développant des applications pour la physique et pour la biologie, comme je vous montrerai. Mais si on fait des produits intéressants, il faut que ça devienne, si on parle de notre participation aux problèmes sociétaux, il faut que ça devienne des produits utiles. Alors, pour qu'un produit soit utile, il faut qu'il soit utilisé par le plus grand nombre. Donc ça veut dire qu'au lieu de travailler à l'échelle du laboratoire, on doit progressivement intéresser des industriels pour qu'on puisse produire ces produits à la tonne, à la dizaine de tonnes jour, de manière à ce que ce produit soit disséminé pour les applications qu'on a choisies. C'est une autre chose qu'on a faite, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors pour ça, j'avais tous les outils de la physique et de la chimie, les outils de synthèse qui peuvent être très différents, tout ce qui concerne la diffraction, c'est-à-dire les méthodes physiques qui permettent d'accéder à l'arrangement des atomes dans l'espace. Pour les propriétés, eh bien, j'ai déjà parlé du magnétisme, de la conductivité, de l'optique, etc. Donc, les chimistes actuels ont toute une palette d'outils pour progresser. Et je l'ai utilisé. Alors, quand on est chimiste, on est créatif, je vous l'ai dit. Alors, il y a deux types de créativité. Ou alors, on déduit des choses par la méthode d'essai et d'erreur dont je vous ai déjà parlé. Ou alors, on essaie de comprendre comment ça se passe. Et à partir des mécanismes de formation, on peut arriver à non seulement faire la synthèse que l'on souhaite, mais en plus la prédire. Et c'est la deuxième démarche, enfin c'est les deux démarches que j'ai adoptées. D'abord la première, la déductive, pour aller à l'inductive ensuite. Alors, quand j'ai commencé le sujet, quels étaient les verrous à lever? Alors il fallait comprendre la réaction chimique, il fallait obtenir des solides cristallisés pour pouvoir étudier les arrangements atomiques. En plus, si on voulait faire progresser le domaine, ben au lieu des petits trous qui existaient dans les minéraux naturels, il fallait faire des grands trous pour mettre un maximum de choses dedans et des molécules de plus en plus grosses. Alors il faut, comme je vous l'ai dit, que ça devienne des propriétés utiles, mais si vous parlez à un industriel et que vous lui ameniez le produit miracle, mais qui coûte des milliers d'euros le gramme, il vous dira, c'est très bien, il faut continuer à travailler dans votre laboratoire, mais nous, on ne le fera jamais. Donc, ça veut dire qu'il faut, quand on pense une synthèse, il faut déjà penser à des prix de revient les plus bas possibles, pour intéresser les industriels. Ça sera leur premier critère. Il coûte combien, votre produit? Combien au kilo? Combien à la tonne? On n'est pas habitué à ça dans nos laboratoires universitaires, mais je crois qu'il faut s'y habituer petit à petit. C'est un critère parmi tant d'autres. Le premier, je vous le rappelle, étant toujours la créativité fondamentale. Donc, puis il faut savoir aussi prédire. Alors, la première étape, ça a été de regarder les structures qui existaient. Alors, toujours à partir de ces polyèdres que je vous ai montrés. Et alors, plutôt que de le construire atome par atome, l'idée que j'ai eue, c'est de non plus regarder les atomes, mais certains assemblages d'atomes, ce que j'appelle les briques. Alors c'est ces briques qui, quand on les met les unes à côté des autres, reconstituent le solide dans ses trois dimensions. Alors ces briques peuvent être purement minérales, ou peuvent être l'assemblage de briques organiques et de briques minérales, pour faire ce qu'on appelle les solides hybrides. Alors voilà ces deux types de briques qu'on retrouve dans les deux composés. Et la question qu'on doit se poser, bien sûr on fait de beaux dessins, quand les gens qui regardent les figures disent « Ah oui, ça y est, je vois comment c'est fait », etc. Mais est-ce que c'est un outil de description pour mieux faire comprendre les arrangements atomiques, ou est-ce que ça correspond à quelque chose de réel? Alors, si c'est quelque chose de réel, à ce moment-là, après, on pourra jouer au Lego, mais pas avant. Alors, effectivement, pour que ce soit montré que c'était une existence réelle, il fallait rentrer dans les les enceintes réactionnelles et regarder pendant la réaction ce qui se passait. Alors, ce qui fait qu'on a développé avec mes jeunes une démarche qui est beaucoup plus globale que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle part d'un aspect académique classique. Donc, on fait d'abord de la chimie, des structures, on regarde l'évolution des paramètres qui comptent, et puis on fait un aller-retour comme ça. C'est souvent ça, la chimie. Alors, donc, nous, on a voulu aller jusqu'au mécanisme de réaction pour pouvoir prédire, et ensuite, éventuellement, appliquer ou revenir à une chimie plus élaborée. Alors, le problème, vous voyez, c'est qu'on travaille dans ces petites cocottes minutes qu'on appelle des autoclaves. Donc, ça veut dire qu'on met les produits dedans. Ça chauffe, et à la fin de la réaction, on regarde ce qui se passe. Donc, c'est, on rentre, il y a un mystère, et puis après, le mystère est résolu, on voit des produits. Alors, tout le problème, c'est justement de savoir ce qui se passe dans cette cocotte minute, pendant toute la réaction. Et ça, c'est pas le plus facile. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire, et d'abord, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de corréler à la fois les paramètres de synthèse et paramètres expérimentaux, que ce soit la température, la pression, l'acidité du milieu, les concentrations, avec les formes des briques qui ont résulté. Alors ça, la corrélation est assez facile à trouver. Et donc, cette brique, élément de descriptif au départ, est-elle une... Pendant la réaction, est-ce que c'est une entité réelle ? Alors, pour ça, on a donc développé beaucoup de méthodes physiques, comme la RML, l'infrarouge, l'exaf, la diffraction, etc., pour voir ce qui se passait dans la cocotte minute pendant la réaction. Alors, je passe très vite sur les étapes, parce que c'est assez complexe, si vous voulez. La seule chose qui m'intéresse ce soir, c'est de vous dire que on a réussi à voir ce qui se passait. Et on a réussi à montrer que ces briques qu'on voyait dans le solide final, eh bien, elles existaient pendant la réaction. Et c'est simplement en fin de réaction qu'elles commençaient à s'assembler les unes avec les autres. Ben, comme on assemble les briques pour faire une maison, eh bien, les briques chimiques s'assemblaient pour faire le solide poreux. Voilà. Alors donc, on pouvait jouer au Lego à partir du moment où on connaissait la brique. Et alors maintenant... On mélange les briques, on obtient un solide, on est content. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va obtenir comme solide et surtout quelle structure il va avoir. Alors ça, c'est pas prévisible. C'est pas prévisible comme ça, en claquant des doigts. Il faut se faire aider un peu par des outils qui sont assez géniaux dans l'ensemble, qu'on appelle les ordinateurs de haute volée. Et ça nous a permis de montrer que ce qui était la partie des briques qui était intéressante, c'était la brique minérale. Parce que non seulement on peut la faire varier dans sa nature, on peut mettre du cuivre, on peut mettre du fer, on peut mettre n'importe quoi dedans, mais en plus, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous voyez, ces atomes de carbone de la partie organique déterminent le nombre de liaisons avec les autres briques qui vont se développer pendant la formation de ce solide. Alors là, vous avez un exemple, ce qu'on appelle la connectivité en termes savants. Donc c'est le nombre de liaisons que ça va former avec les autres. Là, vous avez une connectivité 4, la 6. Maintenant, on peut même arriver à 12. Alors, ça a voulu dire que dans mon labo, on a essayé de trouver de plus en plus de nouvelles briques avec de nouvelles connectivités pour multiplier les possibilités de faire des solides sur mesure. Alors là, par exemple, vous avez cette brique un peu complexe qui a une connectivité de 12. Mais il y a 12 parties organiques qui partent de cette brique et ça donne un solide très aéré, très, très poreux, avec des trous qui font entre 2 et 3 nanomètres. Alors, pour vous donner une échelle, quand même, un atome, en gros, ça fait 0,1 nanomètre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'atomes pour faire cette structure. Alors, pour la partie organique, on peut jouer sur sa nature, sur sa courbure, sur ce qui peut se passer ici, dans la partie centrale, qui va obliger les deux briques minérales à se tourner l'une par rapport à l'autre. Donc on peut jouer à l'infini là-dessus. On peut jouer sur la longueur. Là, vous avez toute une série qui est assez célèbre. C'est toujours la même brique. C'est celle-là. Et on a simplement joué sur la longueur de la partie organique. Et vous voyez qu'on arrive à trouver des solides extrêmement poreux. Tellement poreux que ce solide-là doit avoir une densité de 0,1. C'est-à-dire qu'il flotte sur l'eau. Il est 10 fois plus léger que l'eau. On peut toujours jouer également sur la partie organique, où on peut greffer des choses. Voilà, on a greffé cette entité chimique qui permet de fixer soit de l'azote, soit de l'hydrogène en plus. Alors tout ça tend à vous montrer qu'on essaie de devenir rationnel hein, dans la chimie. Ce n'est pas uniquement l'essai et l'erreur. Mais il faut se méfier. Vous savez, on n'est pas des purs esprits. Et ça a toujours des surprises. Et par exemple, on a eu cette surprise de voir un certain produit dont je vous parlerai un peu plus tard. Une fois qu'on l'avait séché, on était content de notre préparation et on a eu l'idée de mettre une goutte d'eau. Et d'un seul coup, vous avez vu comme un soufflé. Vous voyez, la poudre qui était sur le... s'est mise à gonfler. Alors, curieux. Alors, on a expliqué à l'échelle atomique ce qui se passait. Vous voyez, voilà ce qui se passe quand on ajoute une goutte d'eau. Eh bien, vous voyez, les parties organiques tournent et puis ça gonfle jusqu'à tripler de volume. Vous resséchez le produit, il revient à sa forme initiale, vous remettez une goutte d'eau, je gonfle, je reste ici, je gonfle. Et ça, c'était au départ une curiosité de laboratoire, mais qui commence à être utilisée pour les applications maintenant. Alors, bon, là c'est juste pour vous montrer que entre la forme sèche et la forme humide, vous voyez que la forme de la cage change, et que le rapport des volumes est de 300%. Alors, on l'a expliqué pourquoi. Donc, en fonction de notre démarche, on a trouvé, de manière logique, un grand nombre de nouveaux produits. Mais est-ce que c'était tous les produits possibles? Sûrement pas. Donc, même si le nombre de combinaisons est grand, très grand, il faut aller plus loin, c'est-à-dire être capable de prédire ce qui va se passer. On connaît les briques. Quand un architecte embauche un maçon, le maçon fait les briques, et c'est la manière dont il va arranger les briques que vous aurez soit la pyramide de paille, soit un château du 18e, etc. Donc tout se joue dans la manière dont sont organisées les briques les unes par rapport aux autres. Alors ça, on peut le faire en utilisant l'informatique. Et alors, par exemple, quand on a pris la plus simple des briques, qui est un octaèdre, et un des plus simples des parties organiques, on a essayé de regarder toutes les combinaisons possibles, et alors voilà ce qu'on voyait en accéléré à l'écran, vous voyez, ça bouge, et tac, d'un seul coup, ça se fige sur une solution, on laisse les choses se relaxer, et on arrive sur le produit, par simulation, qui est exactement le même que celui qu'on trouvait par expérience. Donc, dire que la méthode de prédiction marche. Alors, elle marche, puisqu'elle marchait, on l'a appliquée. Et alors, on est parti, par exemple, d'une réaction dans laquelle on était sûr que la brique minérale était celle-là. Donc, trois octaèdres liés par un sommet. Et on l'a mélangé avec une partie organique qu'on n'avait encore jamais utilisée. Et on obtient une nouvelle phase, alors avec une photo d'identité extrêmement complexe. La seule chose qu'on sache, c'est que le rapport entre le métal et la partie organique, c'était 3 sur 2. Expérimentalement, on savait qu'il était extrêmement poreux parce qu'on mesurait la quantité de gaz absorbé. Alors on a cherché la brique, et alors on l'a trouvée, et il y avait trois solutions possibles. Trois solutions possibles, raisonnablement possible, avec des arrangements différents, des photos d'identité différentes, mais parmi ces trois solutions possibles, il n'y en avait qu'une qui correspondait à l'expérience. Alors ça a été, je peux vous dire, quand on a découvert ça, on n'a pas dormi pendant 8 jours, on est resté au labo à bosser jour et nuit, mais ça voulait dire que là, on avait ouvert une porte, la méthode était là. Et alors, quand on regarde la structure, c'est quelque chose d'horriblement complexe. C'est des très, très grandes mailles à l'échelle atomique, avec des volumes énormes, 700 000 angstroms cubes. C'est l'équivalent des protéines. Voyez. Ça ne s'était encore jamais rencontré. Et pourtant, c'est simple, du point de vue du principe de la formation. On parle de notre brique, hein, notre petit triangle d'octaèdre. On les combine avec la partie organique qu'on veut, soit celle-ci, soit celle-là. On obtient des très grosses briques. Je dis très grosses parce que vous avez peut-être entendu parler d'un produit qui a fait le tour du monde il y a une dizaine d'années, qu'on appelait les fullerènes. Vous savez, les espèces de ballons de football à l'échelle atomique, et alors, qui étaient considérés comme des objets gigantesques par rapport aux molécules classiques. Et quand on regarde la taille de nos briques par rapport à la taille d'un fullerène, vous voyez que nos briques sont beaucoup plus grosses que le fullerène. Alors non seulement elles sont plus grosses, mais quand elles s'assemblent, eh bien, elles s'assemblent toujours par des sommets, ici, et ça donne cette structure très complexe que je vous ai montrée, dans laquelle on peut distinguer deux types de cages. Alors, bien sûr, il faut un œil exercé pour le voir, mais vous voyez ces cages jaunes qui sont ici, que j'ai isolées, et ces cages bleues qui sont plus petites et qui sont là. Et ces trous sont énormes. C'est presque 4 nanomètres pour un et 3 nanomètres pour l'autre. À l'échelle atomique, c'est énorme. Et en plus, c'est toujours cristallisé, c'est-à-dire qu'on peut vérifier par rayons X sa structure. Alors, je passe. Alors, ça, c'est toute l'approche du chercheur fondamental. Alors maintenant, pourquoi ? À quoi ça sert ? C'est toujours la question. D'ailleurs, je porte, puisqu'on est dans la célèbre librairie Mola, il y a un petit livre qui vient de sortir, édité par Belin. J'en suis pas l'auteur, je ne fais pas de pub pour moi, mais ce livre est écrit pour les très jeunes. Il s'appelle « La chimie, à quoi ça sert ?». Je vous conseille vraiment cette lecture. Ce testard vaillant est quelqu'un qui a beaucoup de talent pour expliquer les choses de manière ultra simple. Alors, c'est pas moi qui ai dit la nature est hors du vide. On a fait le vide avec nos trous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Alors, c'est comme ça qu'on s'est attaqué aux applications. Alors, ces applications, on peut jouer sur le squelette, on peut jouer sur les trous, et on peut jouer sur la surface interne. Alors, c'est-à-dire que si on joue sur le squelette, on jouera sur les propriétés physiques, comme le magnétisme, la conductivité, la luminescence. Si on joue sur les pores, on pourra jouer sur le stockage et la catalyse, ou on le verra sur la galénique, et sur la surface interne, eh bien on jouera soit en catalyse, soit en absorption. C'est-à-dire que ces matériaux, qui étaient, au départ, je vous le rappelle, et je le revendique, des matériaux issus de la recherche strictement fondamentale. C'est parce qu'on a réussi à faire des gros trous qu'on a pensé aux applications. Ce n'est pas de la recherche finalisée. Alors vous voyez que ça concerne maintenant des domaines qui intéressent la société actuelle, les problèmes d'énergie, de santé et de développement durable, dont on vous parle peut-être même un peu trop souvent. Donc ça veut dire que nos matériaux peuvent devenir utiles. Alors on en a choisi quelques-uns, que j'appelle les stars, oui. Surtout des matériaux qui ont des gros pores, qui peuvent aller de 1 nanomètre jusqu'à 4 nanomètres, en gros. Et si on regarde leurs applications énergétiques, alors ça peut concerner plusieurs orientations, soit le stockage de l'hydrogène, puisque avec la disparition des énergies fossiles, il va falloir trouver des énergies de substitution, et l'hydrogène est bien placé là-dessus. Mais l'hydrogène, c'est une toute petite molécule qui va à une vitesse folle. Par exemple, une molécule d'hydrogène, à la température de la pièce, elle se déplace à 2 km seconde. Ça va très vite. Donc, pour arriver à piéger ces molécules qui foncent à une vitesse folle, il faut réussir à trouver des réservoirs, et nos produits sont des réservoirs. Alors, également, je vous ai parlé que vous pouvez faire de la conduction. Donc on va utiliser nos matériaux comme matériaux d'électrode dans les piles à combustible, dans laquelle un des éléments de combustion sera l'hydrogène et l'autre l'oxygène pour former de l'eau. Donc, mais il faut pour ça des cellules conductrices, donc il faut des matériaux d'électrodes pour arriver à faire la pile à combustible. Donc ça, ça marche. Les économies d'énergie, je vous ai déjà parlé de la catalyse et de la séparation de gaz. Alors pour le stockage de l'hydrogène, bon, je dois avouer que nos matériaux, même s'ils ont des performances en termes de quantité d'hydrogène stocké assez intéressante, par contre, ils ne le stockent qu'à très basse température. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ça restera des curiosités de laboratoire, mais vous ne trouverez pas à 90% d'application de nos matériaux pour le stockage de l'hydrogène. Ils le stockent trop bas. Ah. Il faut être toujours honnête. Il ne faut jamais trop vendre sa camelote. Alors par contre, il y a trois produits qui sont utilisés industriellement déjà. C'est cela, ça un des nôtres. Ça c'est quelqu'un qui l'avait fait, un chimiste de Hong Kong, et là, un chimiste américain. La seule chose qui a été intéressante de savoir, c'est où se fixe l'hydrogène. Et l'hydrogène se fixe sur les parties minérales et pas les parties organiques. Alors ça, pour l'avenir, ça pourra servir à d'autres à essayer de trouver des matériaux plus performants. Alors les matériaux d'électrode, il suffit de rentrer un métal dans les tunnels. Ça va changer le degré d'oxydation du métal dans le squelette et on aura le même élément à plusieurs valences, donc ça deviendra un conducteur électronique, à la fois électronique et ionique, puisque le lithium pourra diffuser dans les tunnels. Bon, ça devient très, très technique. Bon, je passe. Alors, on peut mettre aussi dans les trous. Un mot que peu de gens aiment pour l'instant, par ignorance. On peut faire des nanomatériaux. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos trous comme des moules, dans lesquels on va pouvoir, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ce sera toujours de la dimension du nanomètre. Donc, vous savez, les choses qui arrivent quand on parle de nanotechnologie, il y a des gens qui voient rouge et qui saccagent tout, par ignorance, bien sûr. Mais donc, il va être nécessaire quand même d'informer un peu plus les gens, à condition qu'ils soient décidés à être informés. Donc, mais nous, on sait les faire. On sait les faire, ces nanoparticules, justement, en utilisant nos petits trous. Alors, oui, en plus, vous voyez, on peut même générer des métaux dans nos trous. Alors, pour ça, on repart toujours de notre brique triangulaire, qui, au départ, a des molécules d'eau qu'on peut enlever. Donc, il y a des petits trous qui se forment sur la brique, et sur ces trous vont venir se fixer des composés organiques qui vont être utilisés ensuite pour faire une réaction avec des sels de palladium, et on va générer des métaux à l'intérieur de ces trous qui vont servir pour la catalyse. Là aussi, ça devient très technique. Alors, pour le développement durable, maintenant. Bien sûr, mot magique, CO2. Déchets radioactifs. Et que les chimistes, c'est dangereux, quand même. Mais vous voyez, on trouve quand même les solutions pour capter ces cochonneries. Alors, séquestration du CO2, il y a deux possibilités. Soit on prend nos matériaux rigides, soit nos matériaux flexibles. Vous savez, ceux qui gonflent de 300%. Là. Et alors, ce qui est intéressant dans nos produits, le CO2, si on veut le piéger, on peut le comprimer. Alors, si on le comprime, vous voyez que si on le comprime, on mettra quoi, 50 cm cubes de CO2 par 50 litres de CO2 par litre de container en acier, ce qui n'est pas terrible. Alors que si on met dans le container nos produits miracles, vous voyez, c'est pas 50 grammes, c'est pas 400, c'est 400. Ça veut dire qu'il suffit de mettre nos produits dans le container en acier pour, par compression, mettre à peu près 10 fois plus de CO2, piéger 10 fois plus de CO2. Alors, en plus, comme on est des chercheurs fondamentaux, on essaie de voir où se fixe le CO2, et donc maintenant, ça, on l'a fait. Je passe Et pour finir, on a vu leurs applications en énergie, leurs applications en développement durable. Maintenant, quid de la santé? Alors, pour qu'ils soient utilisés pour la santé, il faut d'abord qu'ils soient non toxiques. Ça me paraît le strict minimum. Donc ça, on sait faire. Non seulement on sait faire, mais on peut certifier leur non-toxicité, puisqu'on a fait tous les tests. In vivo comme in vitro, sur des souris, et je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vois des souris et des rats en pleine forme après un an de traitement. Donc, nos produits sont certifiés non-toxiques. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? On va utiliser nos trous pour mettre des médicaments dedans. Alors ça, ça se faisait déjà, mais ça se faisait déjà avec ce qu'on appelle des liposomes, c'est des petites vésicules organiques, à l'intérieur desquelles il y a un petit trou dans lequel on peut mettre le médicament. Mais ces liposomes sont fragiles, les trous sont petits, donc on met très peu de médicaments, et comme ils sont fragiles, et qu'on fait ces injections par injection intraveineuse, au moment où le liposome arrive à la cellule malade, il est déjà détruit, et le médicament partiellement aussi. Donc il y a une efficacité qui n'est pas très très bonne. Donc il fallait d'abord vérifier que nos produits avaient au moins la même propriété. Alors on a pris une molécule classique, donc vous servez tous les jours, c'est l'ibuprofène quand vous avez mal au crâne, hein, vous avez des cachets d'ibuprofène. Donc, quand on a choisi l'ibuprofène, c'était pas pour utiliser l'ibuprofène, c'était pour valider notre méthode, pour montrer que c'était possible de mettre des médicaments dans les trous. Et ça marchait d'une manière extraordinaire. Même les gens de la profession étaient tout à fait surpris du résultat. Donc, la méthode marchait. Alors n'oubliez pas que le but du jeu, pour nous, c'était de faire des gros trous. Donc, des gros trous permettent de mettre des grosses molécules dedans, et en particulier des molécules qui sont actives contre le cancer, une forme de cancer, la leucémie, surtout la leucémie des enfants, et le sida. Donc, on a testé la capacité de nos solides sur ces molécules. Alors, ça c'était les tests de l'ibuprofène qui étaient tout à fait intéressants. Donc on a testé sur 4 matériaux que je vous ai déjà montrés à un moment déterminé, les uns comme les autres. Ça c'est les deux matériaux qui respirent, et là c'est les matériaux à très très grand port. Donc, et on a regardé ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on a mis... il suffit de mettre une solution du médicament et de mettre nos solides poreux dans la solution. Les médicaments rentrent dans le solide. Alors bien sûr, après, pour qu'ils soient utilisés, on fait des nanoparticules, c'est-à-dire que nos grains de poreux sont très petits, c'est de l'ordre de 20 nanomètres. Donc les médicaments rentrent dedans, donc on peut faire l'injection intraveineuse sans que l'aiguille soit bouchée, puisque c'est des nanoparticules. Et comme on les a fait non toxiques, et qu'en plus on a choisi comme métaux le fer essentiellement, qui est non toxique, et qui en plus a l'avantage d'être visible en imagerie médicale. Ce qui veut dire qu'au moment où on a fait notre injection de nos nanoparticules de produits remplis du médicament, on est capable après de suivre, après l'injection, le chemin de nos particules chargées jusqu'à l'organe malade. Et on les voit. Alors non seulement on les voit, mais on voit qu'ils ne se détruisent pas. C'est-à-dire que l'intégrité ou la quasi-intégrité du médicament qu'on avait mis au départ se retrouve en face de la cellule malade. C'est-à-dire que si on compare au liposome dont je vous parlais tout à l'heure, qui pouvait contenir jusqu'à, mettons, 5% poids de médicaments. Prenez 100 grammes de liposome, il va tenir 5 grammes de médicaments. Ben, les nôtres, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 40 grammes pour 100 grammes. C'est-à-dire, on stocke à peu près 10 fois plus de médicaments que les liposomes actuels. Donc ça, c'est un gros progrès. Vous savez que quand on regarde les performances, suivant les cas, quand on progresse de 5%, c'est un gros succès. Mais là, on a fait exploser les records, en toute modestie. Hein, je peux vous dire que je ne vous raconte pas de salade. On a fait exploser les records. Donc ça, c'est un premier point. On est capable maintenant, avec des nanoparticules de nos solides poreux, de véhiculer des médicaments jusqu'aux cellules malades en grande quantité, donc avec un maximum d'efficacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour nous, ça a été une surprise. Ça, on ne pouvait pas le prédire. C'est que, une fois que le véhicule, notre camion chargé de médicaments arrive à la cellule, on pourrait dire, ben, je décharge et puis je m'en vais. Alors, décharger, ça voudrait dire que ça, le médicament soit délivré en une journée. Et là, on a la surprise de voir que ce n'est pas en une journée que le médicament est délivré, mais suivant qu'il soit flexible ou rigide, c'est entre 10 jours et 3 semaines. Alors, vous imaginez, si vous avez un cancer et qu'on vous soigne par les médicaments que vous voyez dans le tableau là. Au lieu d'avoir votre piqûre tous les jours, avec une efficacité faible, maintenant, on vous fera une piqûre tous les 15 jours, avec une efficacité pratiquement 10 fois plus forte. Donc voilà, ça, à mon avis, bien sûr, on pourra utiliser notre produit pour le CO2, mais pour moi, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important pour deux raisons. D'abord, une fois qu'il est piégé, le CO2, qu'est-ce qu'on va en faire ? Imaginez que nos produits piègent le CO2, qu'est-ce qu'on va faire les cimentiers qui dégagent du CO2 à jet continu, qu'est-ce qu'ils feront ? Une fois qu'ils s'est piégé le CO2, ils mettront notre poudre chargée de CO2 dans les cours d'usine. Donc, d'accord, il sera piégé, mais pourquoi ? J'estime que là, on est à la moitié du chemin. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse piéger des grandes quantités de CO2, ça, c'est un avantage. Ça sera un succès quand on aura détruit le CO2 qui est à l'intérieur des pores. Et ça, je peux vous dire que c'est pas encore demain la veille, parce que la molécule de CO2 est extrêmement stable. Alors, on a déjà des amorces de solutions, mais elles restent à l'échelle du laboratoire, et elles ne sont pas donc applicables industriellement. Par contre, pour les médicaments, là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Parce que toutes les étapes techniques sont faites. Attention, soyons prudents. Au laboratoire, sur des souris. N'imaginez pas que dans 15 jours, les médicaments, nos produits seront dans le commerce pour véhiculer les médicaments anticancéreux. On en est au stade des souris. Après, si on passe à l'humain, vous savez que c'est des années de tests avant que ce soit validé. Donc je ne voudrais pas donner des espoirs trop rapides. Vous savez, la science, elle a sa base de temps. Et les tests humains, il faut prendre le temps nécessaire pour ne pas avoir des ennuis du type Mediator ou thalidomide, d'accord ? Mais la solution existe et c'est la science fondamentale qui l'a apportée. Donc, voilà un peu à quoi servent mes trous. Je suis poinçonneur des lilas peut-être, mais utile. Alors, ça, vous voyez, c'est pour vous montrer le temps au bout duquel les médicaments anticancéreux sont relargués dans l'organisme. Alors, c'est un gros avantage parce que dans cette injection, vous avez à la fois le diagnostic et la thérapie. Le diagnostic, parce que vous avez la visibilité de l'injection. La thérapie, c'est parce que vous amenez la molécule efficace à la cellule malade. Alors, pour bien vous montrer quand même que c'est efficace, vous voyez, ça, c'est des coupes sur des d'organes de souris. Vous voyez que entre les souris de contrôle, donc qui n'ont pas été traitées, et celles qui ont été traitées, vous voyez qu'on a une efficacité assez intéressante de notre médicament. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce que nous avons fait. Et je vous avais dit de l'intéressant à l'utile. Les matériaux, j'espère vous avoir convaincu qu'ils sont intéressants. Sont-ils utiles ? Pas encore. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils puissent être produits à la tonne ou à la dizaine de tonnes jour. Donc il y a toute une étape que les gens ignorent souvent, dont on ne parle jamais dans les journaux, c'est le temps passé de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Alors là, je voudrais vous rassurer, parce que les unités pilotes, grâce à une collaboration avec BASF, elles existent, et vous voyez que, voilà, nos produits pour eux sont déjà produits à l'échelle industrielle, sous forme d'unités pilotes. Voilà quelques images de leur formation à Ludwigshafen. Ah, vous voyez, on obtient des bidons de nos produits, comme ça, qu'on peut même mettre sous forme de petites pilules, quand on utilisera ça comme médicament. Donc voilà, ce que sont les matériaux poreux dont je voulais vous parler. Donc, comme vous pose la question mon gourou Lavoisier, à votre avis, n'est-ce pas un nouveau monde ? Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je peux vous dire qu'il commence tout juste, parce que là, c'est le dernier bébé du laboratoire, où les trous font maintenant 5 nanomètres. Et ils sont très stables jusqu'à 400 degrés. Donc, il ne faut pas dire que nos matériaux sont fragiles. Donc, bien sûr, l'espoir est là. Mais je vous le répète, il faut laisser le temps au temps. Ne soyez pas trop impatients, mais par contre, soyez bien convaincus que les scientifiques, les chimistes, ne travaillent pas contre l'humanité, mais pour l'humanité. Alors bien évidemment, tout ce que je vous ai montré, je ne l'ai pas fait seul. Alors ça, c'est Lavoisier qui vous salue, votre très humble et bien obéissant serviteur. Mais surtout, je voudrais remercier tous les jeunes qui m'ont aidé dans ce chemin. Merci.